La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, nous voilà de nouveau réunis pour une nouvelle émission afin de poursuivre notre voyage au XXe siècle. La fois dernière, j'avais continué sur le surréalisme, puis le dadaïsme, l'expression lyrique et l'art informel. Et je vous ai fait découvrir un musicien doté d'une belle âme, Édouard Salim Michael. Nous sommes maintenant au milieu du siècle et je vais poursuivre avec l'art brut. C'est le peintre-sculpteur Jean Dubuffet qui crée ce terme en 1945-1950 pour désigner des productions réalisées par des personnes sans culture artistique. Ce sont donc des autodidactes, des marginaux ou des êtres solitaires dont la plupart vivent des existences difficiles. Sans doute ont-ils besoin de s'exprimer, de s'évader de leur quotidien, et ils le font comme ils le peuvent, de manière instinctive. Voilà ce que je peux dire globalement pour vous présenter ces personnes. Et parmi eux, il y a beaucoup de personnes internées en asile psychiatrique, ce qui fait que l'art brut sera communément appelé l'art des fous. C'est aussi un terme attribué aux médiums qui peignent ou sculptent sous la dictée d'un esprit. Et à ce sujet, vous avez sans doute entendu parler d'Augustin le Sage, ce mineur qui entendit une voix au fond de la mine lui annonçant qu'il serait peintre. Et en effet, sous la dictée des esprits, par phénomène identique à celui de l'écriture automatique, eh bien, il réalisera de superbes tableaux insolites, étranges, que moi personnellement j'aimerais bien découvrir en réalité, autrement qu'à la télé ou sur Internet. Alors qu'est-ce qui caractérise les artistes de l'art brut? Je vous l'ai déjà expliqué un peu plus haut. Pour compléter, on peut dire que ce sont des personnes qui s'expriment sans se préoccuper du regard d'autrui et sans chercher de reconnaissance ni à diffuser leur production. Leur isolement ou leur mode de vie, souvent humble, voire obscur, font qu'ils conçoivent leur propre univers et peut-être pour la plupart donnent-ils un sens à une existence qui n'en a pas beaucoup. Et c'est vrai que pour moi, cette attitude est éminemment artistique. Et je la valide en tant qu'artiste puisque j'ai expérimenté cet état d'être où l'essentiel était de m'exprimer, soumise à une nécessité intérieure, et cela sans me préoccuper du regard ou de l'assentiment d'autrui. Bon, ensuite, l'entrée de mon art dans le social, bon, ça correspond à un contexte particulier, en relation également avec la condition de l'artiste plasticien. Mais j'aborderai ce sujet et la place de l'artiste plasticien dans la société dans une autre émission. Pour le moment, avec l'art brut, ces artistes s'expriment mais sans culture particulière, ce qui veut dire également qu'ils évitent les formatages des diverses écoles qui leur indiquent souvent comment, avec quoi et aussi pourquoi créer. De plus, c'est vrai qu'elles valident ou non les réalisations. Alors ça veut dire que les artistes en art brut expérimente une liberté de créer non soumise au dictat d'une autorité. Sauf, me direz-vous, peut-être en ce qui concerne les savoir-faire pratiques, comment manier tel ou tel matériau, etc. Alors, je vais prendre mon expérience personnelle, que je pense partager en partie avec les artistes de l'art dit brut. Ce qui compte, c'est l'envie, l'impulsion, la volonté de faire, et celle-ci précède le savoir. De même, je ne me suis jamais dit « je serai artiste ». J'ai fait ce que je ressentais et il se trouve que ça a si bien fonctionné que l'étiquette « artiste » m'a été collée et je l'ai endossée sous la pression des administrations. Alors ma différence aussi avec les artistes en art brut, c'est que j'ai cherché des compléments de connaissances pour utiliser des matériaux dits « traditionnels » comme la pierre ou la terre. Et c'est là que les techniques artisanales servent et accompagnent le geste créateur. C'est comme en peinture, un autodidacte se débrouille, mais à cela la pratique enseignée permet d'appréhender diverses techniques traditionnelles utiles à ce que vous voulez exprimer. Alors que les artistes art brut dépendent de leur contexte particulier, surtout à ces époques, et qui les oblige à se retrouver seuls face à eux-mêmes, sans personne pour les guider. Aussi, c'est la raison pour laquelle les matériaux qu'ils emploient sont inédits, parce qu'ils utilisent ce qui leur tombe sous la main. Alors, ce peut être des poils, des plumes d'animaux, des cheveux, des végétaux, des tissus, du fil, des déchets, des résidus alimentaires, etc. Autant de matériaux les plus hétéroclites et incongrus possibles. Mais ce qui est bluffant pour les spectateurs que nous sommes, c'est de constater leur inventivité malgré souvent la naïveté de la facture et la qualité plastique des productions qu'ils entremêlent avec leur vécu, leur rêve ou leur imaginaire. Et c'est ce qui apporte en plus une expressivité et un sens particulier. On peut aussi considérer que pour la plupart, le processus créatif est plus important que l'œuvre produite. Alors souvenez-vous de l'émission précédente avec l'expressionnisme abstrait, notamment avec l'art informel. J'avais abordé le travail de ces artistes qui utilisent des matériaux inédits. Alors, à la différence des artistes d'art brut, ceux-là sont conscients de leur état d'artiste et de leur implication sociale en se regroupant, exposant, etc. Et il y a un musée d'art brut à Paris, pas loin du Sacré-Cœur, que j'ai bien sûr visité. Ce lieu est suffisamment spacieux pour offrir un bel aperçu d'exposition régulièrement renouvelée et c'est l'occasion d'y aller si vous êtes à Paris. Les informations d'ailleurs se trouvent facilement. Avant de clore ce chapitre avec l'art brut, je vais citer la phrase clé de Jean Dubuffet pour résumer l'état d'esprit de ces artistes. Et il disait « L'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui. Il se sauve aussitôt qu'on prononce son nom. Ce qu'il aime, c'est l'incognito. Ses meilleurs moments sont quand il oublie comment il s'appelle. » Et je rebondis sur un film parce que le contexte social et l'attitude du personnage entrent en résonance avec l'art brut. Il s'agit de Séraphine, très bien interprétée par Yolande Moreau, où celle-ci campe une paysanne inculte, simple bonne, qui non seulement s'est fait remarquer par la qualité de sa peinture, mais a révolutionné l'image que l'on veut toujours se faire de l'artiste de l'époque, bien souvent un crevard de sexe masculin. Eh bien non, l'art est universel et le processus créatif touche toute créature humaine. Et lorsqu'une création est pertinente, personnelle et donc remarquable, ben son auteur peut aussi bien rentrer dans un schéma social répertorié qu'en sortir. En tout cas, je suis d'accord avec la citation de Jean Dubuffet, car je pense que souvent, je ne dis pas toujours, mais la véritable impulsion créative se fiche du décorum. Avant d'afficher quoi que ce soit ou de chercher à porter le nom d'artiste, ce qui compte pour certains créateurs, c'est surtout de faire, de s'exprimer, et c'est pour la plupart ainsi qu'ils trouvent leur raison d'être au monde. Et je ne veux pas être extrémiste comme Antonin Artaud, mais néanmoins, je trouve une justesse dans ce qu'il dit qui peut s'appliquer à bien des artistes, et notamment à ceux de l'art brut, parce que là, nous trouvons un bon terreau quand la difficulté d'exister, voire la souffrance, l'en produit. Et donc ce poète, dessinateur, écrivain, qui s'appelle Antonin Artaud, lui a été d'ailleurs interné parce qu'il souffrait physiquement de syphilis héréditaire, avec tout ce qui peut en découler, et donc il disait... Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé que pour sortir de l'enfer. En cela, il fait écho à d'autres artistes comme le peintre Georges Braque qui disait « L'art est une blessure qui devient lumière ». Ou encore au musicien Richard Wagner qui lui disait « Je ne comprends pas comment un homme vraiment heureux pourrait avoir l'idée de faire de l'art ». Si nous avions la vie, nous n'aurions plus besoin de l'art. Quand le présent ne nous offre plus rien, nous crions par l'œuvre « Je voudrais ». Voilà pour ces citations d'artistes pas très joyeuses, mais on crée dans la douleur comme dans la joie, dans la tourmente comme dans la paix. Et pour clore ce chapitre sur l'art brut, j'ai envie de vous faire écouter une chanson poétique d'un bel interprète de cette époque du milieu du XXe siècle, et qui se nomme Marcel Mouloudji, que les anciens doivent connaître. C'était surtout un chanteur de Paris, En tout cas, je trouve qu'il possède une voix particulière et une belle émotion qu'il sait transmettre. Et je vous propose d'écouter une chanson qui se nomme « Un jour, je m'en irai » sur les paroles du poète Jacques Prévert.
Un jour je m'en irai sur un bateau tout blanc, aux îles sous le vent, au pays des enfants. Ah oui, je m'en irai pour la vie, pour les jours et les soirs, les matins et les nuits. Je quitterai Paris, je quitterai la Seine, Notre-Dame, les quais, ma jeunesse et la théière. Je n'irai plus jamais acheter de château en Espagne ou ailleurs, ni faire de zigoto, ni traîner ma mollesse de vieux cargo usé au long des noirs canaux de Paris en fiévré. Ni ne finirai plus à minuit place Blanche. Oh, je voudrais goûter à mes anciens dimanches. Je quitterai Paris sans même une valise, pour larguer mon passé, toutes mes sottises. Je quitterai les fleurs du jardin de ton corps, et ta bouche anonyme et ton cœur qui m'endort. Je traînerai ma vie au long des continents, au long des rêveries, au long des océans, et peut-être au fin fond d'une mer verticale, entre cieux et nuages et vagues viendra le calme. Un jour je m'en irai sur un bateau tout blanc, aux îles sous le vent, au pays des enfants. Ah oui, je m'en irai pour la vie, pour les jours et les soirs, les matins et les nuits. Un jour je m'en irai sur un bateau tout blanc, aux îles sous le vent, au loin, loin, oui, mais quand. Ah oui, je m'enfuirai pour la vie, pour les jours, pour les nuits, pour la mort. Sans souci.
J'espère que vous avez apprécié. Revenons à ce milieu du XXe siècle. Dans les années 50, à peu près au milieu, va apparaître le pop art ou art populaire, puisqu'il s'agit de prôner une culture populaire. Le pop art naît en Angleterre avec les arts plastiques et est représenté à ses débuts par l'anglais Richard Hamilton. Puis le pop art s'étend au domaine de la musique, de la mode, des arts appliqués et entre en relation avec la publicité. En musique par exemple, dans les années 60, les Beatles démarrent leur carrière et sont considérés comme des musiciens pop parce qu'ils soulèvent l'enthousiasme des masses populaires et évidemment produisent de l'argent. Alors, ce courant naît dans le contexte de la société capitaliste et donc de la société de consommation que nous connaissons bien, où tout ce qui est consommé est considéré comme faisant partie du choix de la population. L'art, évidemment, est produit de consommation et il se consomme comme le reste et donc est en relation avec le profit. Ce qui veut dire encore et toujours que les fins seront avant tout commerciales, l'objectif étant de vendre en grande quantité à un maximum de gens constituant la masse. Le pop art se pose en réaction contre l'expressionnisme. Si les couleurs sont vives, ce n'est pas pour refléter les sentiments intérieurs de passion ou de révolte des artistes, mais plutôt pour être en relation avec un côté trivial et festif. Toute valeur va au consumérisme et aux moyens de toucher le plus grand nombre, puisque c'est la culture dite de masse qui prédomine. Alors comment se positionnent les artistes du pop art par rapport à la société de consommation ? Globalement, ils s'inscrivent dans une attitude d'assujettissement au système, acceptent un nivellement de pensée, adoptent la standardisation, cherchant même à déprécier l'activité artistique en consacrant des objets les plus ordinaires au rang d'œuvres d'art et en s'affranchissant quasiment totalement des difficultés techniques. Alors, les thèmes abordés avec ce type d'art sont les objets de consommation courante, comme les éléments ménagers et l'alimentation. Mais le pop art sera abordé de différentes façons d'un pays à l'autre. En Amérique, le pop art est surtout représenté par Andy Warhol, surnommé le pape du pop. Lui s'est fait connaître, comme vous le savez sans doute, grâce à ses multiples reproductions sérigraphiques d'une photo retouchée avec de la peinture et représentant en général une actrice en vogue. Qui ne connaît pas les Marilyn Monroe d'Andy Warhol ? Il s'est également illustré dans la reproduction en série de boîtes de conserve de soupe Campbell. Il en a réalisé, je crois, 32 toiles similaires. Alors c'est un art en série, comme dans la consommation courante, avec une abondance de produits du quotidien. Avec Andy Warhol, les photographies sont sérigraphiées et les conserves entreposées pour être multipliées en quantité. L'ensemble est réalisé avec quelques retouches plastiques minimes, et ici c'est de la peinture criarde, de manière à ce que l'attention soit attirée comme en publicité. L'important pour les artistes pop art sera d'atteindre la réussite et la prospérité. D'ailleurs, ils y arriveront pour la plupart, comme Andy Warhol, s'ils sont suffisamment à la mode. Et j'ai relevé une phrase d'Andy Warhol parce qu'elle résonne en mon esprit sans trop savoir le contexte. Aussi, c'est à vérifier. Mais il aurait dit « Je pense que chacun devrait être une machine ». En tout cas, c'est une phrase qui s'oppose à des générations d'artistes qui ont cherché d'autres valeurs moins matérialistes. Et là, je fais une petite parenthèse sur l'arte povera, c'est-à-dire l'art pauvre, qui est né en Italie dans les années 60. Je vous avais cité l'art informel et le travail du plasticien italien Alberto Buri, qui est l'un des précurseurs puisqu'il utilisa des matériaux dits pauvres comme des chiffons, du bois, du sable, de vieux vêtements, ce que nous nommons de la récupération. Et ce qui est intéressant, c'est l'attitude des artistes pratiquant l'arte povera. C'est une attitude en contradiction avec celle des artistes pop art. En effet, ils défient la société de consommation. Et de plus, il privilégie le geste créateur, le processus créatif, au détriment de l'objet fini. À propos de boîtes de conserve édifiées en œuvre d'art, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a assez longtemps, en 1990-91. Et c'était une époque où déjà je cherchais des informations ou des émissions sur l'art. Et c'est au cours de l'une d'elles que j'ai fait la découverte d'un artiste italien nommé Piero Manzoni, qui lui a produit entre autres des tableaux monochromes, uniformément blancs, et travaillé avec effets de matière qu'il avait nommé achrome. Alors ce jour, c'était un jour de repos, un dimanche je crois, j'étais bien tranquille sur mon canapé, prête à écouter le documentaire sur Manzoni, et c'est là que j'ai appris que cet artiste avait eu une idée que j'ai trouvée épouvantablement géniale. Et cette idée est épouvantable pour moi à cause de la réalisation de la soi-disant œuvre d'art, et elle est géniale pour l'accueil que lui a réservé une élite très argentée. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, Manzoni eut l'idée de produire une série de boîtes de conserve comme vous décidez de mettre du pâté en boîte. Sauf qu'à la place du pâté, il y a mis ce qu'il a collé sur l'étiquette, c'est-à-dire « mierda d'artista », qui veut dire « merde d'artiste ». Donc, il a produit des boîtes de merde. Et d'artiste, attention ! Et les boîtes ont été numérotées et produites en série limitée comme toute œuvre d'art en trois dimensions. Alors l'émission se déroule, moi je suis scotchée devant l'écran et j'écoute. Et j'entends qu'un collectionneur argenté et réputé ayant trouvé l'idée amusante a acheté sa boîte. Puis un copain ayant eu l'info s'est intéressé lui aussi à acheter la sienne. Et puis les autres, dans la foulée, tout le monde a fait de même. Et je me souviens que l'un des acheteurs interviewés disait globalement « Oui, un tel a acheté une boîte, cela m'a interpellé, il n'y a pas raison que lui en ait une et pas moi. » Donc, son caprice de nanti exprimé, il était logique qu'il s'approprie sa conserve. Sauf que lorsque j'ai entendu les mises aux enchères avec au départ un coût avoisinant les 200 000 francs de l'époque, eh bien, je suis restée, et je ne sais pas comment je suis restée, on va dire que je suis restée couate, bouche bée. Et voilà comment les gens riches se battent pour posséder eux aussi, et à prix d'or, l'une des boîtes de Manzoni. Et comment ils sont prêts à tout pour dépasser leurs copains. Et je me souviens notamment d'un client qui argumentait sa vente en disant « Oui, j'ai beaucoup d'argent et je ne sais pas toujours quoi en faire, alors pourquoi pas ? Et puis un tel là, pas moi, donc il est normal que j'en ai une aussi. » Oh, voilà grosso modo ce que j'entendais collé sur mon canapé. Mais ce n'est pas fini, l'histoire continue. Il est arrivé qu'un jour, oh rage, oh désespoir, la boîte de merde eut une fuite. Et sa riche propriétaire, perturbée, n'a pas trouvé d'autre solution que de la mettre dans le frigo, où le mari l'a retrouvée en voulant sans doute croquer un morceau à la fin de la journée. Je vous rassure, il ne l'a pas consommé, mais néanmoins, il se demandait ce que cette boîte fichait là. Évidemment, ce qu'il y avait dedans n'était guère apte à vous mettre en appétit. Mais la suite de l'histoire est aussi désespérément cocasse. Les propriétaires de la boîte ont fait appel à un professionnel pour expertiser l'œuvre d'art, voire peut-être trouver un moyen de réparer. Alors, un expert est venu, bien évidemment grassement rémunéré pour service rendu. C'est que le problème de ces boîtes, est cherché par Manzoni qui n'est plus là pour le dire, c'est qu'au bout d'un moment, elle fuit. D'ailleurs, j'ai trouvé sur internet l'anecdote d'un collectionneur qui avouait qu'il avait entreposé sa boîte de merde dans une cave humide et qu'à la suite de cela, celle-ci avait rouillé. Alors l'air a pénétré, puis par phénomène de fermentation, je vous laisse deviner la suite. Si bien qu'à la fin, il ne pouvait même plus lire l'étiquette. Et comme l'odeur devenue insupportable, eh bien, il l'a jetée. Ce qui veut dire en gros qu'il a peut-être jeté 200 000 francs, voire plus, à la poubelle. Somme qui n'est que bagatelle lorsque vous êtes richissime, mais drame lorsque vous devez laborieusement trimer pour gagner de quoi vivre. Fin du chapitre. Alors, à cette époque bénie de ma jeune existence, collée sur mon canapé, je me suis dit qu'il fallait que je me remette doucement de ces émotions perturbatrices en regardant un peu la télé. Que n'ai-je pas fait ? Je suis tombée direct sur les images de la guerre du Golfe qui faisait la une de l'actualité de l'époque. Si bien que c'est dans un état second que j'ai dû me lever pour éteindre la télé, puis que je me suis traînée jusqu'à mon lit pour dormir et oublier, chose que je ne fais jamais en fin de matinée lorsque je suis malade. Mais peut-être l'étais-je un peu. Notez que je me souviens encore de cette anecdote 25 ans après. Et des suivantes, parce qu'il y en a d'autres. Et vous écouterez plus loin. Je signale quand même que Manzoni, à ce qui est dit, reste une référence, notamment pour les écoles d'art, et une valeur sûre pour les marchands, même s'il est considéré comme un symbole de décadence. Et c'est le collectionneur Walter Baldi qui disait justement à propos « Ce qui est important, ce n'est pas ce que Manzoni a voulu faire, c'est la manière dont le monde l'a perçu et dont il l'a reçu. » Et c'est vrai, je suis d'accord. Le monde dans lequel nous vivons nous donne preuve de la qualité de ce qu'il est, et ici c'est par sa caste la plus privilégiée. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde participe. Je ne vous raconte pas les émissions suivantes, les semaines qui suivent, où il était question pour l'une d'une machine à fabriquer de la merde en l'alimentant avec des ingrédients de luxe. Et j'ai vu avec dépit les bons chocolats qu'à l'époque j'aurais eu du mal à m'offrir partir dans la tuyauterie d'une machine rébarbative sous l'œil égrillard de leurs inventeurs, ravis de leur trouvaille. Et pour tirer profit de leur invention et faire plaisir à leur clientèle, ils n'ont pas hésité à encadrer les précieuses reliques pour les vendre afin qu'ils décorent les murs de leurs émules. Dans un autre type d'idée, il était question lors d'une autre émission pour deux frères ou collaborateurs d'artistes, je ne me souviens plus, de réaliser des œuvres particulièrement hard avec boyaux éventrés parfaitement représentés et dégoulinant de sang et d'immondices, soldats nazis en situation, des scènes de guerre, de sexe, vagin, etc., etc., j'en passe. Qu'une élite argentée néanmoins s'arrachait à prix d'or avec un bonheur qui faisait plaisir à voir. Et je me souviens aussi de l'interview de ces artistes avec les éternelles questions posées en général aux créateurs et légitimées par un travail de recherche intérieure et extérieure et donc une maturation. Quel est votre message ? Que cherchez-vous à exprimer ? Et leur réponse était, Rien. Nous n'avons rien à dire. Nous faisons parce que ça nous amuse. Nous gagnons de l'argent, c'est les autres qui trouvent les explications. Et cela était dit sur le ton badin de gens parfaitement décontractés, comme peuvent l'être ceux que la vie favorise. Et en effet, ils avaient raison. Le public avait besoin de justifier son intérêt en trouvant des explications. Et ils en trouvaient, à revendre, si je puis dire, autant qu'ils en avaient besoin, sans doute, pour justifier leur délestage financier. Point et fin de ces petites anecdotes dont le contenu fut artistiquement éprouvant pour la jeune personne que j'étais à l'époque. Et après ces palpitantes histoires, je vais récupérer mon souffle et vous proposer, pour terminer et nous laver l'esprit, une musique entraînante, ressourçante, créée non point dans les années 60 du XXe siècle, mais à la fin du XIXe siècle, par Camille Saint-Saëns. Il s'agit du final du Carnaval des animaux, histoire de finir en beauté, cette fois, ce qui a été commencé. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine fois.
C'était La Voix des Arts, une émission de Christine Darboux.